Je comprends qu'il y a un état d'urgence. Moi aussi, je suis française, j'ai besoin d'être protégée. Maintenant, j'ai besoin d'être protégée. Pas qu'on vienne chez moi ou dans mon association pour tout casser.
Vas-y. La sécurité.
Au sol.
C'est la première des libertés.
Ils ont cassé un mur. C'est quoi la nécessité de casser un mur? Encore une porte. Donc, soit, ils ont cassé trois portes, ils ont cassé un mur.
C'est pour cette raison que d'autres libertés ont été ou peuvent être temporairement limitées.
Le djihad existe, on ne peut pas l'enlever. Ça fait partie de la religion, ça fait partie des musulmans, c'est comme ça. Il y a quoi qui parle de la religion? Je sais pas, on dirait qu'on est bon qu'à manger des macroutes pendant le ramadan, merde. C'est-à-dire que c'est aussi autre chose.
Je me trouve à Argenteuil, rue de Morinval. C'est une zone pavillonnaire en banlieue parisienne. Et là, je vais à l'association Beitouna rencontrer Virginie et Célia. L'association qui s'occupe de femmes isolées, qui vivent plus ou moins à la rue, ou en tout cas de façon isolée. Et l'association a été perquisitionnée dans le cadre de l'état d'urgence il y a quelques semaines maintenant. C'est assez joli par ici. C'est calme, c'est des pavillons. Voilà, 45. Merci de frapper fort et attendre que l'on vous ouvre. Retirez vos chaussures à l'entrée. Merci de votre compréhension. Célia ?
Oui ?
Oui, c'est Anaëlle ? Je peux rentrer ?
Ouais, vas-y.
D'accord, merci.
Tu es toute seule ou pas ?
Oui, je suis toute seule. J'enlève mes chaussures ?
Non, non, regardez. Vous pouvez descendre
en bas ? En bas ? D'accord.
Ouais.
Et là, j'attends Célia dans une cuisine qui se situe au sous-sol. Il fait sombre. C'est un peu comme une cave aménagée. Ça a un peu le renfermé. Là, il y a un vieux frigo. Et sur le frigo, il y a un autocollant où il est écrit « Palestine, un état maintenant ». C'est marrant, cet autocollant qui est là tout seul. Sur ce vieux frigo, il reste un peu de vaisselle. Et là, à côté de la cuisine, il y a une sorte de salon dans l'obscurité quasiment totale. Avec des matelas au sol. Célia, ça va ?
Oui, ça va, j'arrive.
D'accord.
Bonjour. Bonjour.
Oui,
ça va,
et vous ?
Ça va.
Je suis toute seule, vous pouvez retirer le voile, il n'y a pas de problème.
Ouais.
On est entre femmes.
Désolée, ça pue un peu, c'est parce qu'on a la fosse septique qui est morte. Vous voulez boire un truc ?
Je veux bien. Les petits écoliers.
Vous en voulez pas, vous ?
Non, ça va, merci.
Hop là.
Célia, c'était vous qui étiez ici au moment de la perquisition, ouais. C'est ça ?
Ouais.
Vous étiez toute seule ou ?
Toute seule, ouais, dans ma chambre.
Mais vous étiez en train de dormir ?
Non, non, il était 20h.
Ah, il était 20h.
Ouais, j'étais dans ma chambre. Ils ont tapé fort. Après, ils ont crié police, ils sont rentrés. Ils sont montés.
Ils m'ont braqué.
Ils m'ont braqué.
Braqué, ouais.
Avec
une arme. Je pense que c'était un revolver, le prof, celui qui était devant moi. Les autres, en fait, j'ai pas eu le temps parce que c'est passé vite. Ils sont montés, ils m'ont dit contre le mur, les mains en évidence. Donc, contre le mur, les mains en évidence, j'ai pas.
Vous êtes mise contre le mur avec les mains en l'air?
Voilà. Ils sont pas tous rentrés dans la maison. Comme il y en a qui étaient en bas, qui étaient en haut, moi, mon étage, il y en a peut-être au moins 10 qui sont. Que j'ai vu au moins 10 têtes différentes, plus ceux qui étaient dehors et peut-être ceux que j'ai pas vus. Donc, à tout casser, 15, 20 max.
Vous aviez compris que c'était les policiers ou pas?
Ouais, j'ai compris. Non, quand j'étais dans ma chambre, quand j'ai entendu police, je me suis dit c'est une blague. Après, je dis non, c'est pas une blague. C'était chaud, quoi. Genre, ils parlaient mal, ils parlaient sèchement, ils cassaient tout. Enfin, ils ont pas tout cassé, mais en gros, ils ont cassé des portes. Ils criaient. C'était loyé, quoi. Donc après, une policière m'a palpé deux fois. Elle a appuyé sa main sur mon dos pour que je colle ma tête dans le mur, en gros, que je bouge pas, quoi.
Ça vous fait mal?
Non.
Mais elle palpe quoi? Aussi sur les seins?
Ouais, soutien-gorge. Elle a fait vraiment la palpation entière bien quoi. Après.
Et vous avez gardé vos vêtements quand même?
Oui.
Et vous aviez le voile aussi à ce moment-là?
En fait, il y avait une robe avec un foulard dessus. Donc moi, j'ai juste attaché mon foulard comme ça. Par contre, mais à cette permise. Quand elle était en train de me palper, elle s'est permise de me l'arracher. Elle m'a dit, ouais, ça, vous me l'enlevez.
Elle a arraché le voile.
Voilà. Elle posait des questions, mais c'était pas comme vous me posez des questions, par exemple. Ou c'était pas comme ça. C'était vraiment. Et pourquoi vous faites ça, hein? Et pourquoi ça? Hein? Et ça, enfin, au bout d'un moment, ça m'a saoulée. J'ai dit, mais c'est ton problème? Elle m'a dit, oui, dans l'islam, la femme, elle est soumise. Donc en gros, vous voulez être soumise. En fait, elle était grave malsaine. On dirait, elle avait la haine, en fait. À un moment. Elle m'a dit, ouais, toi, je suis sûre que t'es une grosse coquine et tout. Après, comme elle sait, j'ai dit, mais tu cherches quoi? Après, elle m'a dit, bah, comment ça, je cherche rien et tout. J'ai dit, bah, si, puis tout à l'heure, tu me lances des piques, tu me cherches, tu cherches un truc. Elle m'a dit, non. Donc voilà, après.
Et qu'est-ce qu'elle cherchait en fait? Est-ce qu'elle vous a expliqué ce qu'ils faisaient là?
Ah non, ils nous ont pas expliqué. Juste un moment, le commissaire. En fait, c'est que le commissaire, il se ramenait avec ses feuilles. Sur la feuille, il y avait écrit que. Des membres de l'association étaient suspectés d'être en relation avec des personnes pouvant menacer la sécurité ou l'ordre public, un truc comme ça. Et moi, quand j'ai lu ça, j'ai relu ça devant le commissaire, j'ai dit, mais c'est qui? Parce que c'est les gens de l'association ou c'est nous, les hébergés? Parce qu'on ne sait même pas, en fait, il n'y a pas de nom. Et ça se voyait qu'ils ne savaient pas. C'était un peu à l'aveugle, quoi. On y va, c'est des musulmans, on tape dedans, c'est tout, quoi. Parce qu'au final, ils ont rien trouvé.
Pas de garde à vue, après. Et est-ce que depuis, vous avez eu des nouvelles?
Non.
Aucune nouvelle?
Non, aucune.
Et vous avez peur depuis ou...
Non, moi, j'ai pas peur. Le seul moment où j'ai eu peur, c'est quand un policier m'a braqué parce qu'on sait jamais. Après avoir... Pardon.
Ouais, descends, viens.
Bonjour.
Oui, je parle au téléphone.
Ah ouais.
Pourquoi t'as cru quoi?
Je parle à quelqu'un, mais j'ai...
Non, je parle au téléphone.
Article du Monde, 16 décembre 2015. Dans son ordre de perquisition administrative, la préfecture avait choisi une formulation très générale pour motiver cette opération effectuée dans le cadre de l'état d'urgence. L'association Beitouna Militon est fréquentée par des personnes dont le comportement constitue une menace pour l'ordre et la sécurité publique. Aucun nom n'est cité, ni celui de ces personnes, ni celui des responsables de l'association.
Virginie, vous êtes... Je suis la vice-présidente de l'association Beitouna. Vous hébergez, si je comprends, des femmes qui sont plus ou moins à la rue, enfin en grande difficulté.
Voilà, elles sont en très grande difficulté, à la rue ou avant d'être chez nous, elles étaient soit à la rue, soit hébergées par des tiers en fait. Ou à l'hôtel, ou quoi que ce soit. Donc ouais, après, les gens nous contactent, apprennent qu'il y a une femme à la rue, ils nous les envoient.
Vous êtes Virginie de Versailles?
Oui, je suis originaire de Versailles, oui.
Vos parents sont musulmans aussi?
Ah, du tout? Non. Non, mes parents sont catholiques. Je me suis convertie, j'avais 18 ans. Avant de me convertir, j'allais à la messe le dimanche. C'est mon papa qui faisait le catéchisme chez moi. J'allais à l'église Notre-Dame de Versailles, ouais. Ouais. Et là, bah, mes petits frères et sœurs sont en école privée catholique.
Quand vous avez appris que vous aviez été perquisitionnée, vous étiez où à ce moment-là?
J'étais chez moi. J'habite au Clé-sous-Bois, dans les Yvelines. Je comprends qu'il y a un état d'urgence. Moi aussi, je suis française, j'ai besoin d'être protégée. Maintenant, j'ai besoin d'être protégée. Pas qu'on vienne chez moi ou dans mon association pour tout casser. S'ils avaient voulu des renseignements, ils appellent, ils nous convoquent. Dites-moi qui vous hébergez, quels sont vos bénévoles, il n'y a pas de souci. On donne tous les papiers. Là, ils viennent, ils débarquent. Il y a une fille de 20 ans, c'est une gamine à 20 ans, on est une gamine. Ils lui braquent une arme dessus, ils retournent toute la maison. Comme si elles n'ont rien, ces filles-là. Le peu qu'elles ont, c'est ici. Elles n'ont rien. Elles ont quelques vêtements, quelques papiers, elles n'ont rien. Donc, on pallie un manque de l'État. On est tous bénévoles. Il n'y a personne qui est payé. On fonctionne que sur des dons. On ne demande rien à personne. Et on vient, chez nous, tout casser. Ils ont cassé un mur. C'est quoi la nécessité de casser un mur? Encore une porte. Bon, soit. Ils ont cassé 3 portes, ils ont cassé un mur. On a tout payé. On a tout financé nous-mêmes. Avec des dons, des gens qui sont arrangés pour nous donner des meubles, des trucs comme ça. Ils arrivent, ils cassent tout sans raison. Et les motifs de la perquisition, donc, on les a appris après par le journal Le Monde. Mais en gros, on hébergerait des femmes de djihadistes. Donnez-nous des noms. Nous, les filles, on les a en entretien. On n'héberge pas n'importe qui. On sait très bien que si on héberge une femme comme ça, de toute façon, le lendemain, il débarque ici et il ferme tout.
Et peut-être qu'ils espéraient obtenir des informations en passant par ces femmes-là. Mais en se disant, on va avoir comme ça des informations sur les maris potentiels. Enfin, j'essaie de mettre dans leur...
Mais, enfin, si ils affirment ça, qu'on héberge des femmes de djihadistes, ça veut dire qu'ils ont des noms. Donc, c'est qu'ils n'ont rien. Bah, la preuve, on n'a pas eu de garde à vue, on n'a même pas été convoqué au commissariat. Il n'y a rien. Le jour de la perquisition, notre président est arrivé sur les lieux parce qu'il avait 2-3 trucs à récupérer à la maison ou à faire des travaux, je ne sais plus trop quoi. Donc il s'est présenté, il a demandé ce qui se passait parce qu'il savait pas qu'il y avait une perquisition. Il voit la police devant, il demande. Ils lui ont pris son identité, il a dit qu'il était le responsable. Et en fait, ils l'ont mis sur le trottoir d'en face.
Ce que j'ai lu par rapport au responsable, c'est qu'ils accusent son frère...
Ah oui, d'être mort en Syrie. Mais sauf que tous ses frères sont en vie. Moi, là, vous savez que il y a eu la perquisition. Ils ont rien trouvé. J'ai quand même peur. Je dors avec mon fils. Je vis toute seule avec mon fils parce que je suis séparée. Il a 7 ans. Je lui ai dû lui expliquer que peut-être la police allait venir à la maison. C'est compliqué. Il a eu du mal à comprendre. Moi, je veux pas qu'il ait une mauvaise image de la police parce que c'est quand même... Elle est censée nous protéger. Donc, je lui ai dit qu'ils allaient peut-être venir chercher des voleurs chez nous. Les méchants qui avaient fait les attentats. Parce qu'à l'école, ils ont parlé des attentats. Donc, il a fallu lui expliquer. Donc moi, il me dit, mais je comprends pas, on est toujours gentils, on aide les autres, parce que mon fils, il vient à l'association, il fait des maraudes avec moi, tout ça, donc il a l'habitude de faire du bien. Et là, lui dire, ah, je vais pleurer. Mais c'est dur, franchement, c'est dur. Ah, ça me touche quand c'est mon fils. Parce qu'il sait ce qu'on fait. Oh là là. Si c'était ne serait-ce qu'un peu renseigné, ils auraient vu qu'il y avait rien. On héberge des filles seulement. On fait pas une propagande ou je sais pas quoi. On fait rien de mal. Et c'est ça qui est... Franchement, ils auraient fait ça bien. Ils seraient venus. Tout ça, il n'y a pas de souci. C'est normal. On a besoin d'être protégés. Bon, bah, moi aussi, j'ai pas envie de me faire tuer. Mais il y a des façons de le faire. Ils représentent l'État quand même. Donc, voilà, il faut faire les choses correctement. Juste, voilà, qu'ils ciblent un peu mieux. Qui cible un peu mieux. Après, s'ils s'étaient renseignés sur nous, ils auraient bien vu qu'il n'y avait rien.
C'est pas, c'est... Et pas Célia, vous, ça fait depuis le mois de mars que vous êtes ici?
Ouais, depuis le mois de mars.
Vous êtes retrouvée ici suite à des problèmes de famille?
Ouais.
Et puis ça s'est arrangé ou pas depuis?
Oui et non. Oui, si ça serait oui, je serais là-bas, mais après, c'est que ma famille, je leur parle quand même. Donc.
Vous avez quel âge? Vous êtes jeune, hein?
20 ans.
Vous avez des très jolis yeux.
Merci, c'est gentil.
J'aime bien le piercing que vous avez au nez.
Merci, c'est gentil.
C'est joli. J'ai la chance de pouvoir vous voir.
Ouais.
Vous êtes né où?
À Saint-Germain-en-Laye.
Saint-Germain-en-Laye.
Ouais. Dans 78, ouais, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. En fait, j'ai passé un CAP 20 ans en alternance. Je l'ai eu à 16 ans. Je fais des petits stages, enfin, j'étais en maison de retraite pour Alzheimer. Ménage, je faisais le ménage aussi.
Et puis à ce moment-là, vous viviez où? Chez vos parents?
Au foyer.
Ah, au foyer.
Mmh. Moi, j'ai été placée en foyer suite à mes problèmes de famille, donc avant de me retrouver dehors.
Mais on vous a mis dehors ou c'est vous qui êtes partie ?
On m'a mis dehors. En fait, j'avais déjà des problèmes, donc la juge m'avait placée parce que chez moi, c'était dangereux.
C'est dangereux chez vous ?
Oui, oui.
Et dangereux pour vous ?
Pour moi, ouais. Donc après, je suis revenue, mais c'est mal passé, donc au final, j'ai fini dehors.
À quel moment, Célia, vous vous êtes convertie à l'islam ?
Entre 14 et 15 ans. Ben, je me suis mis dedans, quoi. À 17 ans, j'ai mis le voile.
Vous aviez peut-être des copines aussi qui étaient musulmanes ?
Oui, mais pas pratiquantes. Ma meilleure amie, j'ai même mis le voile avant elle, donc c'était pas un engrenage. Puis c'était pas pour un garçon non plus ou quoi, non, c'était vraiment de moi-même.
Vous priez où ? Dans votre chambre ?
Dans ma chambre, ouais. Ouais, tranquille.
Et du coup, quand vous sortez dans la rue, on vous voit pas, enfin, on voit vos yeux.
Voilà, on voit mes yeux. Une fois, j'ai pris le métro, il y a une dame, elle m'a dit « Oui, c'est interdit, ça. » J'ai dit « Vous êtes de la police ?» Elle a dit « Non, mais je vais les appeler. » J'ai pas appelé lui. Faites-vous plaisir. Après, elle a dit « Non, mais c'est inadmissible. » Et comme elle a vu que j'allais rentrer, elle s'est mise devant. Elle m'a dit « Non, vous rentrez pas dans le métro, vous rentrez pas. » J'ai dit « Quoi ?» Elle dit « Non, ça se trouve, vous avez une bombe sur vous et tout. » J'ai dit « Ouais, c'est bon. Ouais. »
Elle a cru que vous aviez potentiellement une bombe.
Oui, oui, que j'avais une bombe. Elle a dit « Non, ça se trouve, vous avez une bombe et tout. »
Elle n'a pas appelé la police, finalement.
Non. C'était pour me faire peur, je pense, mais bon.
Vous avez eu peur ?
Non. Si j'ai peur de ça, je suis pas sortie de l'auberge. Hein. Votre thé va être franc.
Oui. Il a bien infusé, du coup.
Ouais.
Vous avez été éduquée avec la culture musulmane ou
Non, pas du tout.
Ah bon ?
Non. Bah non, j'ai pas de milieu religieux en fait. Du côté de la famille à mon père, c'est athée. Enfin, mon père n'est pas baptisé, etc. Ma mère, elle est chrétienne. Par sa famille, je veux dire.
Donc c'est vous qui avez choisi vraiment de vous convertir à la religion musulmane.
Ouais, ouais. Rien à voir avec mes parents.
Et vous avez un amoureux ?
Non. Non, j'en ai pas.
Parce que vous êtes vachement apprêtée, enfin, avec du vernis à ongles.
Ah non, c'est pas du vernis, c'est. C'est pas du vernis, c'est du henné en fait.
C'est du henné sur les ongles.
Ouais, voilà, j'ai mis sur. Ouais, bah ça remplace le vernis, voilà, ça marche. Après, quand ça pousse, on voit bien que.
Ah oui, du coup, ouais. Oui, on voit que c'est du henné.
Ouais, ouais. Le vernis orange comme ça, moyen quoi.
Et vos parents, ils travaillent ou pas ? Ils sont ensemble, ils sont.
Non, ils sont séparés, ça fait longtemps. Ma mère, elle travaille dans l'entreprise des eaux, fait des factures. Et mon père, il est carrossier peintre.
Mm. Et pourquoi tout à l'heure vous disiez que c'est dangereux pour vous de rester là-bas ?
Franchement, je préfère pas m'étaler sur mes problèmes que j'ai eu par rapport à ma famille, mais comme mon père il buvait, enfin il avait la main un peu leste, voilà. Mm. Donc,
il était violent.
Ouais. Mmh. Ouais. Donc, ça se passait mal et voilà. Mmh. Mon père, c'était comme ça, quoi. Pas de à télé, à la dure, ouais, exactement. Mmh. À la très, très dure, même. Et voilà, après, j'ai eu des hauts, des bas, j'étais placée et puis voilà.
Là, c'est en foyer, puis. Mmh. Puis là, maintenant, vous vous en sortez ?
Mmh, ouais. On va dire ça. Je dors pas dehors, c'est l'essentiel, donc ouais. Parce que sinon, là, normalement, je suis SDF, parce que ici, c'est pas vraiment chez moi.
Et c'est quoi vos projets ? La suite, ça ressemble à quoi, la suite ?
Je ne sais pas. Soit trouver un travail... Mais bon, c'est compliqué, on trouve un travail comme ça, donc voilà.
Pourquoi ?
Dans tous les métiers, en général, on veut pas de femmes voilées, enfin, en France, donc...
Vous sortez des fois ?
Ouais, des fois je vois des copines à moi. Je passe même mon permis. Bah justement, j'ai conduit après là.
Du coup, vous avez déjà le code ?
Oui, heureusement. J'ai galéré à l'avoir, mais je l'ai eu. La conduite, c'est plus facile.
Et vous devez y aller là ? C'est ça?
Oui.
Je vois le téléphone qui vibre. Ouais. C'est la conduite qui commence, ouais. C'est ça? Ouais. Qui va commencer?
Il va falloir que je prenne le bus, que je m'habille et tout.
Ah d'accord. Merci Célia.
Bah, de rien.
Puis à bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Eyes for Allah, nothing but Allah. Ba is the beginning of Bismillah. Ta is for taqwa, bewaring of Allah. And tha is for thawab, a reward. Ja is for Jannah, the garden of paradise. Ha is for Hajj, the blessed pilgrimage. Kha is for Khatim, the seal of the prophethood given to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Da is for Deen, al-Islam, religion with Allah since time began. Da is for Dhikr, remembering Allah, and the rise for the month of Ramadan. Oh, Ramadan.
On est dans Meudon, Meudon-la-Forêt.
Exactement.
Et là, vous me disiez, Amar, ben, c'est là qu'a eu lieu la perquisition.
C'est là qu'a eu lieu la perquisition, chez mes parents, au 10e étage. Là, on voit le panneau où c'est marqué à vendre ou vendu maintenant. C'est là qu'a eu l'erreur de police qui est venue casser cette porte où j'y habitais pas. Et ensuite, ils sont descendus au premier étage de la même cage d'escalier où habitent mes parents. Et c'est là où a eu lieu la perquisition. Voilà.
Ça ressemble un peu à une cité.
Ouais. Ça ressemble à une cité, oui. Parce que c'est des anciens logements Renault qui ont été privatisés par la suite, et puis voilà. Là,
on est et un ici. Petit Coxy Market.
Ouais, il y a un carrefour, on n'est pas loin du centre commercial Vélizy 2. On est vraiment face à la forêt, mais c'est un quartier un peu... C'est une banlieue bourge, on va dire. C'est une banlieue où on est tranquille, on est bien ici. C'est une ville qui est très agréable. Voilà quoi, après, comme dans toute la France, il y a tout. Il y a toute la mixité française réunie, mais à une échelle moindre par rapport aux cités du Nord, au quartier des banlieues Nord.
Et avant, c'était les logements Renault?
Ouais, à l'époque, c'était les logements Renault. Donc mon père avait habité ici parce qu'il justement, il travaillait à l'usine Renault. Et après ça...
Il était ouvrier?
Oui, il était ouvrier. Je ne connaissais pas sa fonction exacte, je ne la connais toujours pas. Parce qu'il a été licencié directement dans les premières vagues de licenciement, dans les années 80. Et après, il a fini électricien dans une entreprise pour l'association de l'emploi des cadres, à l'APEC. Et on a conservé le logement, il a acheté dès qu'il en a eu la possibilité, il a acheté.
Et là, on va dans votre association qui s'appelle ?
L'Oasis. On y fait des cours d'arabe, notamment, d'accord ? Et des cours de Coran, on a quelques classes de cours de Coran pour apprendre à psalmodier le Coran, la récitation chantonnée, on va dire.
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل
له عوجا الرحيم.
Alors la perquisition que vient d'évoquer Amar, c'était quelques jours après les tueries du 13 novembre et c'était chez sa mère où il habite. C'était au petit matin et sa mère et sa sœur avaient été brusquées. À tel point que depuis, Amar a carrément honte de rentrer chez lui. Alors aujourd'hui, on est avec lui, on va dans le local de son association, qui est un petit bâtiment au coin d'une cité à Meudon, en bordure de forêt, et qui ressemble, de l'intérieur, un peu à une salle de classe. La porte du centre sera fermée 10 minutes après le commencement du cours. Faut pas arriver en retard, hein. Je suis un peu étonnée, Amar, parce que je pensais qu'on était dans les banlieues chics de la banlieue parisienne, banlieue sud. Et en fait, il y a une cité là, non?
Non, alors tout ça, non, ça c'est pas une cité. Là, c'est des. En vrai, il y a deux cités. Il y a le côté où les gens sont sous le propriétaire, et puis à côté, il y a une cité, mais c'est une cité assez calme en général. Il y a toujours eu des petits pépins, hein, comme dans tous les quartiers populaires. Mais on peut pas se plaindre. On n'aime pas se plaindre ici, parce qu'on est mieux que dans certaines cités, certains quartiers de France. Là, on sait tout de suite qui fait quoi, quoi. Voilà. Nous, ce qu'on voulait, c'est faire des cours d'arabe, que les gens apprennent leur langue maternelle, peut-être pour certains, pour d'autres leur langue d'origine, et puis avoir un repère, quoi. On sait qui on est, voilà. Parce qu'à chaque fois, on dit qu'on est issu d'eux, mais les trois quarts des Arabes d'ici de France ne parlent pas l'arabe et ne le comprennent même pas. Il y a 10 profs. Il y a 10 profs dans cette classe, il y a 450 élèves.
450 élèves.
Oui, il y a 450 élèves ici, donc ça tourne.
Calendrier des adultes, rentrée 2015, langue arabe pour les enfants, l'apprentissage du Coran. Et Amar, vous avez grandi dans le coin, c'est ça, si je comprends
Absolument.
Bien
à quelques centaines de mètres d'ici, j'ai grandi ici. Depuis l'âge de 3 ans, j'habite à Meudon-la-Forêt. Oui, mes enfants sont en France, ils habitent à Paris. Ils sont scolarisés à l'école irakienne, donc il y a une école irakienne qui existe depuis plus de 40 ans à Paris.
Elle se trouve
dans les quartiers chics de Paris, dans le 16e, rue de la Pompe. Oui, mais on est très satisfait de l'école dans l'ensemble. Elle est full d'ailleurs, elle est complète. Toutes les écoles musulmanes depuis quelques années sont complètes. Parce que les gens commencent à voir qu'ils n'ont pas leur place dans les écoles publiques. Alors que nous, à l'époque, on avait notre place.
Aujourd'hui, moi, Ikhlas, et comme des centaines d'enfants, je vais dans une école laïque où je ne peux pas appliquer mes principes. Y a-t-il espoir que je puisse aller à l'école en enseignant le programme obligatoire ainsi que la langue arabe et des cours de Coran?
L'éducation est notre priorité, ensemble pour y arriver.
Ça, c'est le bureau. Donc on va
le bureau. La cuisine. Une petite cuisine.
Ça, c'est la cuisine, mais elle sert aussi de réserve de certains de nos livres qu'on distribue. Par exemple, là, on a reçu des Corans en langue française, 100% en langue française. Et la couverture est souple parce que c'est aussi pour distribuer pour des associations qui donnent à certains détenus dans les prisons. Donc c'est la traduction la plus connue, celle qui vient d'Arabie Saoudite.
Vous avez une bonne pile là en réserve.
Les Corans en langue française, on en a 200 exactement.
Oh. Ouais, et tout ça, on vous les donne?
Ouais, tout ça, on nous les a donnés, on me les donne. C'est l'ambassade d'Arabie Saoudite en réalité, via encore d'autres associations. L'ambassade distribue à des grosses associations qui, elles, redistribuent à des petites et qui nous redistribuons, etc. C'est comme ça que ça se passe. Donc tous les livres, en général, tous les livres donnés gratuitement viennent des Émirats Arabes Unis ou de l'Arabie Saoudite. Ben, je suis né de parents immigrés, d'accord? Mes parents sont immigrés vers la France. Ok, je suis né en France, donc moi, pour moi, je suis français. J'ai grandi avec des Français, j'ai étudié dans l'école française. J'ai appris la langue arabe à l'âge de 20 ans, voire 21 ans. Je ne disais pas un mot, je ne lisais pas une lettre jusqu'à mes 20-21 ans. On a pratiqué la religion à 20-21 ans, justement. On a attendu 20 ans pour pratiquer, parce que nos parents... C'est une obligation religieuse, mais pour eux, ils s'en fichaient, quoi. Du moment qu'on est des gens plus ou moins corrects, bon, on a fait aussi des bêtises, on a fait des 400 coups. Mon frère, ça a plutôt été des grosses bêtises, et grâce à lui, j'ai pas fait les grosses bêtises, justement.
C'est votre frère aîné?
Oui, c'est mon frère aîné. Bon, il a un an de plus que moi. Il est assez charismatique, d'ailleurs, mais moi, je suis plutôt les petites bêtises de le petit frère, c'était les petits vols.
Votre frère, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il s'en est sorti quand même?
Oui, il s'en est bien sorti. Il a fait pas mal d'années en prison. Ça nous a beaucoup aidés, c'est triste à dire. Ça nous a soudés, ça a soudé la famille. Bon, il a tué personne, hein. C'était dans les stupes, c'était pas des histoires de meurtre non plus. Mais bon, ça a détruit la famille, faut le savoir. C'est un truc qui est encore douloureux. On grandissait mal, il fallait bien un frein. Bon, c'est plus un frein, c'est un mur qui s'est pris. Mais je veux dire, aujourd'hui, je serais incapable de faire une connerie parce que j'ai vu ma mère souffrir. Donc je voudrais jamais revoir ma mère souffrir comme elle a souffert pendant des années. C'est pas possible. Je me dis, voilà, il faut faire attention, il faut savoir qui on est, il faut savoir où on va. Moi, je ne suis pas le mec qui témoigne à la base. Ce qui m'est arrivé, là, la dernière perquisition, ça m'a détruit, ça m'a fait mal. D'accord? Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de mal. Mais aujourd'hui, il y a deux solutions. Je fais quoi? Même plusieurs solutions. Je pars de la France, ça ne va pas changer grand-chose. D'ailleurs, je n'ai nulle part où aller.
Ah oui, vous avez pensé partir de la France?
Ben oui, largement, mais oui. Mais 10 fois. Je lui dis, ouais, je vais au Maroc, je voulais.
Après habiter. La perquisition?
Oui, après, la preuve, je suis parti, hein, d'ailleurs, pour information. Après la perquisition, je suis parti à Bruxelles parce que j'ai une petite affaire là-bas avec laquelle je travaille. C'est ma seule source de revenus, on va dire, avec laquelle je peux vivre. Donc je suis parti, la police est au courant, tout le monde est au courant. Malheureusement, je ne suis pas à l'aise là-bas parce qu'il me manque mon pilier, ma famille, il me manque ma liberté, mon moral, il me manque. Et le fait de ne pas pouvoir se laisser faire. Et non, aujourd'hui, je vais me battre, on va se taper pour rétablir l'honneur. On ne demande rien, hein. Les portes cassées, on n'en a rien à cirer. Les armoires, les trucs cassés, tout ça, je m'en fiche complet. Ça se rachète, c'est pas un problème. Ce qui a du mal à revenir, c'est notre honneur. Et là, On entend, au bout d'un peu plus d'un mois après l'état d'urgence, le décret d'état d'urgence, des voix qui commencent à s'élever et qui commencent à justement vouloir arrêter ça avant qu'il y ait soit un soulèvement populaire, qu'on retire cette loi, mais le plus vite possible, parce qu'il y a trop d'abus, c'est trop. On comprend qu'il y ait des dommages collatéraux, mais qu'il y ait des excuses, que ça avance, que ça bouge, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et on ne sait pas quoi faire. On se fait manipuler par les médias, on en a peur, on en a marre. Moi, je m'excuse, mais il y a des médias connus sur la télé qui sont venus, qui m'ont appelé moi par perquise. J'ai refusé de parler avec eux.
Je sais pas si BFM, on... tout ça.
Dans le mille. Dans le mille. BFM, j'ai dit non, je veux pas. Jamais de la vie. Parce qu'ils sont pas objectifs. À chaque fois qu'ils parlent de la religion, je sais pas, on dirait qu'on est bon qu'à manger des macroutes pendant le ramadan. Merde, je veux dire que c'est autre chose. Le djihad existe. On peut pas l'enlever. Ça fait partie de la religion, ça fait partie des musulmans, c'est comme ça. Maintenant, le djihad, il a plusieurs facettes. Il peut être le combat contre soi-même. Ça, on n'en parle jamais. Le djihad, si on pouvait dire un mot, ce serait se contrôler, vraiment se contrôler. Maintenant, dans le Coran, le djihad peut aussi vouloir dire combattre. On ne peut pas dire non, je ne pourrais pas l'enlever, c'est clair, c'est une évidence. Le problème, c'est que le sujet est tellement tabou qu'on ne peut même pas en parler. État islamique. Moi, pourquoi je serais une cible prioritaire où tous les musulmans qui ne sont pas avec eux, c'est parce qu'à partir du moment où on n'est pas avec eux, c'est qu'on est contre eux. Donc on est des apostats. Et l'apostat doit être tué en priorité qu'un mécréant. Parce que le mécréant, lui, peut devenir musulman. Mais l'apostat était musulman. Il ne peut plus redevenir. Donc il faut le tuer. Pour eux, on serait des priorités à abattre et non pas les mécréants. Alors après, bien sûr, ils ont des techniques, des tactiques. Ils viennent, ils font des attentats en France, à Paris. C'est pour déstabiliser les citoyens, les diviser entre les musulmans français et les Français non musulmans. Et c'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, tout le monde nous regarde de travers.
À quoi ça leur sert d'ailleurs, cet amalgame?
Ça leur permet de faire le tri. Ça permet de savoir qui est avec eux, qui ne l'est pas. Il va y avoir trois types de personnes. Il y a ceux qui vont se radicaliser. Et ça va fonctionner. Et il y en a. Et ça, c'est merci François Hollande parce qu'il n'a pas su gérer la situation. Pour moi, il n'a pas su gérer la situation. Aujourd'hui, il a tapé sur le musulman au lieu de le défendre, de savoir faire une différence entre ceux qui passent à l'acte, ceux qui ne passent pas à l'acte. Lui, il a mis trop de paramètres. Ceux qui passent pas à l'acte, ceux qui vont passer à l'acte, ceux qui vont peut-être passer à l'acte, ceux qui peuvent... Non, on ne fonctionne pas comme ça. Il y a ceux qui ont fait qu'il faut punir, et ceux qui ont aidé, s'il veut, ça c'est la loi, ils se débrouillent. D'accord ? Mais ceux qui n'ont rien fait, il n'a pas à les toucher. Il n'a pas à les voir. 2800 ou 2900 perquisitions, ça n'existe pas. La dernière fois qu'on a connu ça, c'est mes grands-parents pour la guerre d'Algérie. Donc ça ne rentre pas. Si on a 10 qui se radicalisent, c'est une catastrophe pour la France. Si on a 3 qui passent à l'acte, si on a 1 qui fait comme Mohamed Merah, on fait quoi? On va dire que c'est à cause d'État islamique? Faux! C'est pas vrai, c'est la perquisition, c'est l'humiliation qu'il a subie, c'est les attaques. Le mec, il a tout perdu. Ceux qui ont perdu leur job à Roissy ou à Orly, je ne connais pas, je ne sais même pas à quoi ils ressemblent, ça se trouve je ne m'entends même pas avec eux. La seule chose que j'ai de commun avec eux, c'est la religion, mais moi je les défends.
Il y en a 70 qui ont perdu leur badge.
Vous trouvez 77. Ça normal? On trouve ça normal. Est-ce que les Français trouvent ça normal? S'ils ne trouvent pas ça normal, ils doivent le dire. Ok, chômage, après la pauvreté, etc. etc., etc. Après, ça va devenir quoi? Un mec qui va se débrouiller, donc magouille, pour gagner sa vie, pour nourrir sa famille. Il devra vivre. Parce que si tous les boulots le rejettent parce que monsieur a la barbe, et qu'il ne faut pas croire parce qu'on lui a retiré son badge qu'il va se raser la barbe et qu'il va s'appeler Jean-Paul et qu'il va s'habiller comme je ne sais quoi, qu'il va aller chercher un boulot barman et servir de la bière. Non, non, ça va renforcer ses convictions.
La sécurité, c'est la première des libertés.
Je descends, j'étais en slip, hein. J'ai même pas eu le temps de m'habiller, j'étais en slip, en t-shirt.
J'ai pas de plus tirer dans la porte, hein. Ici, au bureau d'en haut.
Les mains en l'air, c'est bon, je le sens.
Depuis la mise en place de l'état d'urgence, après les tueries du 13 novembre, il y a eu jusque-là plus de 3000 perquisitions et également 381 assignations à résidence, plus ou moins justifiées. Alors, vous le savez peut-être, mais les personnes assignées à résidence ne peuvent pas quitter leur ville de résidence et doivent aller pointer plusieurs fois par jour au commissariat. C'est exactement ce que vit Younes. Un jeune homme de 28 ans, brun, de taille moyenne, jusque-là sans histoire, avec un casier judiciaire vierge. Younes, il vit à Goussainville, en banlieue parisienne, et depuis qu'il est assigné, depuis le 16 novembre, il passe tout son temps entre l'appartement de sa mère, où il vit, et le commissariat, où il doit aller pointer 3 fois par jour. Younes, Là, on se trouve à Goussainville, où vous habitez?
Effectivement, c'est bien ça. Donc, je suis assigné à résidence depuis le
16 novembre.
Depuis mon assignation, j'ai pris une dizaine de kilos. J'ai l'interdiction totale de quitter la ville. Donc, je suis dans l'obligation d'être dans la ville. D'ailleurs, je dois rester dans mon logement, ou chez ma mère plutôt, de 21h30 à 7h30 du matin. Et je ne peux pas quitter la ville et je suis dans l'obligation de signer 3 fois par jour au commissariat de Goussainville.
Et ça pendant encore 2 mois?
Bah, certainement, jusqu'à la fin de l'état d'urgence.
Et comment vous avez appris que vous étiez assigné à résidence? Vous avez reçu un courrier? Vous avez eu une visite des policiers?
J'ai eu une visite des policiers qui sont venus chez moi le 15 dimanche. Une quinzaine de policiers qui sont venus à la maison pendant que moi je travaillais. Donc ils sont arrivés, ont tapé à la porte. Sont rentrés, ma mère qui les a accueillis mais ne comprenait pas c'était quoi la situation vu que je n'ai jamais eu de problème avec la police ni avec la justice. Donc ils ont demandé après moi, mais moi j'étais au travail.
Ça s'est passé comment? Elle vous a raconté ou pas?
Elle était assez traumatisée vu qu'elle ne parle pas français et qu'elle est assez âgée. Donc elle a commencé à fondre en larmes sans aucune explication vu qu'elle ne parle pas de la même langue.
Elle parle quelle langue?
L'arabe.
Parce qu'elle vient de quel pays?
Tunisie.
Vous faites quoi comme travail?
Je travaille en tant que VTC.
Véhicule touriste avec chauffeur?
Effectivement.
D'accord. C'est toujours votre travail ou pas?
Non, pas du tout, vu que je suis assigné à résidence. Et d'ailleurs, c'était plutôt un job qu'un travail. C'était en attendant de signer un CDI, une opportunité que j'ai ratée suite à l'assignation à domicile. Le poste m'est passé sous le nez, vu que je ne pouvais pas appeler l'employeur pour lui expliquer la situation de cette manière-là.
C'était quoi comme travail?
C'était pour faire gardien d'immeuble.
Ah, vous avez pris des documents avec vous?
Non.
Le ministre de l'Intérieur peut assigner à résidence toute personne résidant dans la zone fixée par décret dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre public, considérant que, au regard de la gravité de la menace terroriste sur le territoire national à la suite des attentats du 13 novembre 2015 et compte tenu de son comportement, M. Younes entre dans le champ de cette disposition, qu'en effet, il fréquente assidûment la mosquée radicale Al-Fatah de Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis, a côtoyé le terroriste Chérif Kouachi, auteur des attentats terroristes contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo en janvier 2015, tient régulièrement un discours anti-occidental et antisémite et approuve l'action des Moudjahidines de l'organisation État islamique tant sur la zone irako-syrienne que sur le territoire national, qu'en outre il existe des raisons sérieuses de penser que l'intéressé est lié à une activité à caractère terroriste, considérant que compte tenu de la gravité de la menace qu'il représente pour l'ordre et la sécurité publique, il y a lieu de l'assigner à résidence dans un périmètre restreint, de le soumettre à l'obligation de se présenter 4 fois par jour auprès du commissariat de police de Goussainville et de lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside, vu l'urgence, et c'est signé de la préfecture de police. On vous accuse de choses graves.
On m'accuse de choses où je ne suis pas dedans et je ne me suis jamais rendu à cette mosquée en question, vu qu'elle est à environ 32 km de chez moi.
C'est-à-dire vous allez dans une autre mosquée? Vous allez à
la
quelle
mosquée? La mosquée de ma ville. Je ne fréquentais ni cette mosquée, ni ces personnes en question.
Ni Chérif Kouachi, là, ils disent carrément que vous fréquentiez...
Pas du tout. Je ne le connais pas du tout, donc je ne sais pas comment ils peuvent dire que j'approuve l'action ou autre. J'ai toujours été contre.
Ils parlent de propos antisémites...
En aucun cas. D'ailleurs, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là, donc je ne sais pas du tout d'où sortent ces accusations-là en question.
Vous avez eu peut-être des propos sur le Facebook, je ne sais pas.
Non, pas du tout. Non, en aucun cas. Après, j'ai condamné les attentats, c'est tout à fait normal qu'on condamne face à des barbaries. Je me dis plutôt que c'est une erreur, peut-être un homonyme, qu'autre chose. Voilà. C'est pas évident, je te promets que c'est pas évident, parce que ça rend ouf. J'étais là, t'expliques quelque chose où t'es même pas dedans. De se retrouver dans une situation où toi t'es pas coupable, mais d'accepter comme si tu étais, donc de subir des accusations.
Alors là, on se tourne vers Raphaël Liogier. Raphaël Liogier, vous êtes essayiste, philosophe, sociologue. Et j'aurais aimé savoir ce que vous pensez du témoignage qu'on vient d'entendre et si, selon vous, ces assignations à résidence nombreuses, puisqu'il y en a 381 assignations à résidence actuellement en France, sont utiles ou pas.
Ouais, ces assignations à résidence hein, qui sont vraiment communes, enfin, nous, j'ai rencontré aussi d'autres personnes qui sont dans ce cas, eh bien, elles n'ont aucun sens du point de vue de la sécurité même des Français. Aujourd'hui, on ne cherche pas des causes, on cherche des corrélations. Et vous voyez bien que ce sont des corrélations. La corrélation, c'est « il aurait rencontré un tel ». On n'a pas vraiment la preuve, on ne sait pas, peut-être qu'il l'a rencontré comme ça. Il irait à telle mosquée, qui serait une mosquée fondamentaliste, qui se trouve être à 40 km, donc on voit bien qu'il ne peut pas y aller au quotidien dans cette mosquée. Mais ce n'est pas grave, parce qu'il y a corrélation. Moi, mon travail, c'est de chercher des causes. Donc, de faire un vrai diagnostic. Mais aujourd'hui, ce que fait le gouvernement, il cherche des corrélations pour confirmer l'imaginaire de la guerre de civilisation. Je trouve que c'est irresponsable, même du point de vue de la sécurité des Français, d'une part. Et puis, d'autre part, c'est quand même terrible, très angoissant pour moi, du point de vue de la remise en cause des libertés publiques, de la démocratie en général.
Alors, quelles sont les causes ?
Ah bien, justement, les causes du djihadisme, ce n'est pas le fondamentalisme. Moi, je me suis heurté contre cela depuis longtemps. C'est-à-dire que ça aurait été le cas. Il y avait un glissement de la théologie, une théologie très littéraliste et puis très idéologisée dans les années 80-90 jusqu'au début des années 2000 avec Al-Qaïda et des gens qui pouvaient glisser jusque dans le terrorisme. Depuis le milieu des années 2000, on a deux phénomènes. Un phénomène de fondamentalisme qui est un peu type Amish, avec des gens qui veulent vivre comme des bédouins du VIe siècle et qui n'ont aucun rapport avec le terrorisme, mais qu'on accuse d'être en rapport avec le terrorisme. Et puis, d'un autre côté, ce que j'appelle les nouveaux ninjas de l'islam, des gens qui sont des voyous, qui sont dans la frustration. Et parce que l'islam a une image antisociale, justement dans cette espèce de logique de guerre de civilisation, paradoxalement, ça devient justement désirable pour eux. Ça devient désirable dans leur désir de vengeance sociale. Et c'est ces gens-là qu'il faut essayer de viser. Et pour viser ces gens-là, ce n'est pas en visant des gens qui ont fréquenté une mosquée, qui ont fait ceci, qui ont fait cela, qui ont accès à l'arabe, etc. Et là, moi, je ne suis pas dans la corrélation, je suis vraiment dans la recherche des causes.
On parlait de l'utilité ou non des assignations à résidence, des perquisitions également, qu'il y a eu en nombre. Selon vous, comment le gouvernement doit-il procéder pour lutter quand même contre le terrorisme, contre des personnes qui sont de fait en train de se radicaliser ? Je ne parle pas de Younes, mais... Quand même, c'est un phénomène qui existe. Et comment le gouvernement, d'après vous, doit-il réagir ?
Un, le gouvernement doit être pédagogue au lieu de faire ce qu'il fait aujourd'hui, c'est-à-dire d'entretenir l'angoisse généralisée vis-à-vis de l'islam, parce que ça n'apporte rien. Deux, il doit éviter de faire signe à cette guerre de civilisation qui finit par produire ce qu'elle veut éviter. C'est-à-dire l'idée, on va fermer des mosquées, on va renvoyer des binationaux, on va faire ceci. Ça crée une logique de guerre et donc ça fait le jeu de Daesh. Parce que ça crée plus de frustration et donc ça crée plus de potentiel de recrutement. Et trois, il doit mettre en place, et j'avais proposé un observatoire national des identités, pour pouvoir faire le diagnostic et viser ceux qui sont vraiment susceptibles de commettre des attentats en raison de leur profil psychologique, de leur profil social, de leur biographie, de ce qu'ils ont déjà fait. Et ça, c'est pas si difficile que ça en réalité.
Il y a une confusion aussi de la part des services de police et de renseignement entre des salafistes, par exemple, qui sont confondus avec des personnes potentiellement de l'État islamique, alors que dans certains pays, les salafistes, au contraire, sont utilisés pour donner des renseignements sur des personnes qui seraient plutôt de la tendance pour l'État islamique.
C'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, on a un... Alors, salafisme, c'est quelque chose de compliqué parce qu'il y a des écoles traditionnelles salafisme, etc. Mais en fait, on a un nouveau salafisme. Justement, c'est celui que j'appelais, qui ressemble un peu aux Amish. Ce sont des gens qui sont absolument antiterroristes parce qu'ils trouvent que c'est trop moderne, que c'est sale, que c'est pas pur. Hein. Et ces salafistes, ils sont justement dans le collimateur de Daesh. Et pourtant, les mosquées salafistes en question, que le gouvernement français veut fermer et a perquisitionné dans ces mosquées. Alors qu'elles sont dans le collimateur de Daesh parce qu'elles opèrent sur le même marché chez des jeunes qui sont justement en difficulté, qui ne sont pas très régulés, qui ont des problèmes psychologiques, mais justement les détournent par le fondamentalisme un peu sur des questions de mœurs et les dépolitisent. Donc, fait en sorte, dans une certaine mesure, qu'ils ne puissent pas glisser dans le terrorisme. Il y a par exemple un individu qui fait partie de ces nouveaux fondamentalistes qu'on appelle salafistes, un peu rapidement, mais enfin qu'on appelle salafistes, qui est l'imam de Brest, Abou Daïfa, qu'on a vraiment nous étudié dans le détail. Cet individu, ce n'est pas une bonne nouvelle peut-être pour la citoyenneté, hein, parce que sur les questions de mœurs, sur le sexe, sur la musique, il a des idées très très réactionnaires. Mais enfin, Il est absolument antiterroriste. Nous, on a étudié les centaines, les milliers même de vidéos qu'il a faites. Il n'y en a pas une qui prône le terrorisme. Et même, il est vraiment contre ça, absolument. Donc, oui, on peut l'utiliser. Et d'ailleurs, lui, il est prêt à ça. Il est prêt à ça parce qu'il est dans le collimateur de Daesh. Il est considéré comme un ennemi, justement. Hein, parce que... Alors, on pourrait l'utiliser. Il faudrait être malin. C'est comme l'idée de fermer les mosquées. C'est vrai qu'il y a certains djihadistes potentiels qui fréquentent des mosquées fondamentalistes. Mais en fait, ils les fréquentent de manière différente. D'abord parce qu'ils prient moins. Ensuite, parce qu'ils ne font que passer, parce qu'ils ont autre chose à faire ailleurs. Ensuite, parce qu'ils ne s'habillent pas pareil. Ils s'habillent en style néo-afghan et pas en bédouin du 6e siècle. Donc, il ne faut pas les confondre. Donc, ça sera un moyen de les repérer au lieu de fermer la mosquée. Mais au lieu d'être malin, au lieu d'être ciblé, au lieu même d'être dans une vraie politique de sécurité, on est dans une politique du fantasme qui met en péril notre sécurité.
Je comprends qu'il y a un état d'urgence. Moi aussi, je suis française, j'ai besoin d'être protégée. Maintenant, j'ai besoin d'être protégée. Pas qu'on vienne chez moi ou dans mon association pour tout casser.
La sécurité, c'est la première des libertés. C'est pour cette raison que d'autres libertés ont été ou peuvent être temporairement limitées.